informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes, visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras critiques musicales, palmarès, nouveautés culturelles, informations, nouvelles sportives et l'écoute en direct. C'est un rendez-vous au www.chiz.ca.
Par le cadre du 37e Festival international de musique actuelle de Victoriaville, Chiz 94.3 est fier de collaborer avec CKUT 90.3 à la présentation du concert de Tamayuge et Disquiet Army avec Away le samedi 22 mai à 19h30. Un rendez-vous pour les arts vivants sécuritaires nous attend à Victo en mai prochain. Pour tous les détails sur le 37e FIMAV, visitez le fimav.qc.ca.
Réveilleurs and shout, boisé sur le slalom, musique zag.
Si ça nous tue, pourquoi on recommence?
Écoute locale avec Chiz 94.3.
Il est 4h.
Bonjour, bonjour, bon mercredi, bienvenue à Chiz 94.3 pour l'émission Chérie, j'arrive, ce magazine, cette revue qui vous expose tout ce qui se fait de beau et de bon ici en art et culture à la ville de Québec. Gabrielle Morissette avec vous jusqu'à 17h30 environ. Ouais, parce qu'on a quand même beaucoup de contenu, on va essayer de rentrer tout ce beau monde-là dans l'émission d'aujourd'hui. À commencer avec un petit Chérie, je suis poète, ça faisait longtemps, mais on ramène un peu de poésie dans l'émission d'aujourd'hui. Je reçois Christian Girard pour nous parler de son dernier recueil, Le temps qu'il fait, qui est paru quand même en 2020. Ensuite, je reçois Josiane Paradis pour une entrevue. Elle nous revient 12 ans plus tard avec un premier extrait des Coups des Franches. J'ai envie d'entendre à ce sujet-là. Ensuite, Alex Baillargeon vient faire son tour pour nous parler des nouveautés à la télé. Et il y aura Alex Tremblay-Lamarche qui sera en studio. Oui, oui, en studio. Les chroniqueurs reviennent tranquillement et on va nous parler de suggestions de lecture en lien avec la famille. Tout ça, c'est votre Chérie J'arrive d'aujourd'hui. Merci d'être là. Je m'appelle Gabrielle Morissette et on va passer notre mercredi fin de journée ensemble avec des entrevues, de la poésie, de la musique, de la télé, de la lecture. Bref, vraiment tout pour être bien confiné à la maison. On n'en a plus pour longtemps. J'espère que vous avez commencé à vous inscrire pour le vaccin. On est dans la tranche d'âge de l'auditoire de Chiz. Alors, je vous encourage à le faire dès maintenant si ce n'est pas déjà fait. Et on va tout de suite en musique avec Fou de toi de Girard. Et je vais rejoindre l'autre Girard au téléphone, Christian, pour nous parler de son recueil dans le cadre d'un petit Chéri, je suis poète. Alors, on se retrouve dans quelques instants de l'autre côté et on parle poésie. Vous êtes à Chiz 94.3.
C'est parti, on n'en revient pas. Avant même de s'en rendre compte, il est trop tard. Tes paroles se promènent en moi comme l'encre dans l'eau. Ta présence est un vent d'été dans mon cachot. Ma solitude se change en feu de joie. À tout moment d'euphorie, assurément fou de toi. À tout moment d'euphorie, assurément. Fou.
tu saches que tu pourras toujours compter sur moi jusqu'à la dernière heure, jusqu'à ce que mon cœur vole en mille éclats. Je veux que tu saches que tout ce qui tend à nous séparer ne pourra m'empêcher de maintenir le fil de ma mémoire. Je sais maintenant que tous les chemins, évidemment, je sais maintenant que tous les chemins.
De retour à Chiz 94.3 pour cette fois-ci un chéri, je suis poète. Alors on ramène des auteurs-autrices de la ville de Québec pour nous amener un peu de poésie sur nos ondes parce que ça fait toujours du bien. Puis parce que, bon, on a du talent ici côté écriture-poésie et ça me fait très plaisir de les recevoir. Alors celui que j'invite maintenant, il s'appelle Christian Girard. Il nous a partagé en 2020 Le temps qu'il fait, qui est grosso modo, c'est un constat de l'air du temps écrit sur quelques années par un observateur-poète qui s'est mis à distance suffisante pour bien juger de l'étouffement à venir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un concept météo derrière tout ça. Allô, Christian?
Bonjour.
Ça va bien?
Oui, toi?
Oui, certainement. Je commence par une question toute simple. Quel temps fait-il de ce temps-ci?
Oh, je dirais qu'aujourd'hui, c'était un temps particulier, disons, ça hésitait entre soleil et nuages gris, mais dans la tête, ça allait quand même pas si mal.
Oui, j'imagine. Le recueil dont on va parler aujourd'hui, Le temps qu'il fait, est paru en 2020, comme je le disais. Bon, c'est un constat, puis la critique se fait dans un format bulletin météo. Comment s'est construite cette idée-là d'écrire un tel recueil?
Ben, en fait, comme ça, tu l'as dit en introduction, c'était sur plusieurs années, puis ça colle un peu avec mon processus d'écriture, c'est que j'écris un peu au jour le jour, puis comme je cultive beaucoup les formes brèves en poésie, que ce soit l'aphorisme ou le haïku et tout ça. Bon, ben j'en accumule au fil du temps et tout ça. Puis là, le recueil s'est constitué un peu comme ça. C'est un patchwork de quelques années. Mais le concept de météo, qui est une section en particulier du recueil, qui est divisé en 5 sections, le concept de météo, ça m'est venu comme ça d'une façon tout à fait ludique où je me suis amusé avec le temps qu'il faisait. Juste, ça me permettait, j'ai vu que ce concept-là me permettait, sans parler directement de moi, sans aller directement dans l'expression d'une émotion, je pouvais parler de quelque chose qui était extérieur à moi, mais que je subissais aussi, et je mets cet angle-là pour... Ça donnait, disons, c'était un prisme à travers lequel je pouvais parler de quelque chose d'autre que simplement la météo. C'était comme dans le communiqué de presse, ça disait, c'était un constat du temps qu'il fait, mais pas juste la météo, aussi notre époque. Donc, c'est ça. Puis, une fois le concept, disons, élaboré, ben ça a coulé de source. La section météo, je l'ai faite en quelques semaines, à peine. Mais comme ça, j'ai pu aller chercher des mots, des notes que j'avais écrites un peu partout comme ça, puis pouvoir faire des collages de textes, puis exploiter des images qui me semblaient, bon, un peu orphelines toutes seules, et pouvoir les insérer dans les textes pour les mener à terme.
Christian Girard, je rajoute également que tu as été libraire pendant quelques années et bon, ton recueil fait le constat du temps qu'il fait, un constat de ce qui se déroule présentement autour de nous. Ces idées-là, tu le mentionnais, il y a des papiers que tu as écrits sur plusieurs années, etc. Est-ce que ces constats, ces observations-là viennent de tous les conseils lectures que tu as donnés dans ta vie ou des nombreuses lectures que tu as faites pendant que tu étais libraire?
Ben oui, puis je continue toujours à lire, même si je travaille plus en librairie. Donc, c'est la lecture qui m'a amené à travailler en librairie, puis disons, on peut sortir le gars de la librairie, mais on sort pas le libraire du gars comme ça. Puis évidemment, c'est beaucoup de lectures m'influencent encore et toujours. Puis je vais autant dans le passé que dans les choses, des trucs plus contemporains. Puis quand je dis je vais dans le passé, je m'intéresse autant, disons, à la poésie de la Chine antique que la poésie française du 19e siècle, que la poésie américaine du 20e siècle. Et donc, j'essaie de par ma poésie, peut-être inconsciemment, je ne sais pas la part des deux, mais j'essaie d'être un peu tributaire de tout ça et de poursuivre ce rapport-là à la poésie que l'humanité entretient depuis qu'elle est sur Terre, en fait.
C'est intéressant de savoir que l'inspiration peut venir de tout horizon et de la manière dont tu l'expliques. Je t'imagine bien dans une librairie à lire tout ça, on dirait, ça fit. D'ailleurs, ouais, vas-y.
C'est un esprit curieux, là. J'ai un esprit curieux, autant pour la lecture que pour l'écriture. C'est un peu toujours la même disposition d'esprit, là.
Oui. Je reviens au recueil Le temps qu'il fait. C'est un constat, c'est une critique sociale. Quels sont ces fameux constats, ces observations que tu jugeais bon de mettre en poésie?
Oui, en fait, c'est encore pour expliquer un peu mon procédé d'écriture, c'est que je pars pas de mes opinions, de mes émotions. Pour écrire, souvent, je vais prendre le mot, la matière mot, la matière langage comme matière première. Et forcément, quoi que je fasse avec, mes opinions ou mes observations sur le monde vont transparaître, vont modeler, vont laisser leur marque là-dedans. Puis, mais bon, on va dire que globalement, ce que je remarque, c'est un monde un peu de vitesse, monde où il y a une espèce de colonisation de l'intime qui se fait, où on est dans une civilisation du digital, alors que moi, par la poésie, j'essaie de poser une espèce de pensée analogique qui est basée sur les correspondances, sur les liens qu'on peut faire entre les choses pour bien comprendre son environnement. Alors, c'est un peu le ça. J'en aurais beaucoup à dire, là. Je pourrais faire un essai là-dessus, mais.
Oui.
Mais c'est assez global, là, ce que je dis, je fais les coins ronds. Mais c'est ça, entre autres. Puis je voulais que dans le recueil, il y ait un rythme assez détaché, dégagé aussi, pour. Justement, que cette attitude-là d'observation, de lenteur, de minutie aussi dans le détail, dans la forme, soit un contrepoids à une époque de productivité, de d'opinion à tout vent et tout ça. Donc, je voulais offrir un côté plus décalé, un pas de recul face au monde dans lequel je vis, que tout le monde vit, évidemment. Donc, c'est un peu ça, là.
Et ce pas de recul-là, ben, en fait, il y a Valérie Faure qui a écrit un article sur toi et qui décrivait ton ouvrage, qui laissait transparaître de l'humour, des inquiétudes, de la révolte et la tendresse aussi. Est-ce que tu es d'accord avec ce choix de mots-là, justement? Et si oui, comment on s'inquiète en riant? Puis comment on se révolte en tendresse?
Ben, écoute, moi, je suis d'accord avec ce choix de mots-là, d'abord. Puis, comment on s'inquiète en riant, ou peut-être comment on rit en s'inquiétant?
Oui, les deux fonctionnent, en fait. La question se pose dans tous les sens.
C'est que, je veux dire, disait un humoriste que j'aime beaucoup, il disait « L'humour noir, c'est la politesse du désespoir. » Un peu, donc, c'est qu'à un moment donné, il vient... il y a le le monde est tellement sans dessus dessous que ça en devient comique, tragiquement comique, puis le comique participe du tragique, puis vice-versa, puis donc je pense que c'est un effet de ma sensibilité, sûrement, là, que je pourrais dire, autant pour la tendresse et la révolte. C'est, je veux dire, si on se révolte, c'est pour les bonnes raisons, souvent, c'est la pour qu'il y ait plus de tendresse. Si je pouvais, si je peux m'exprimer comme ça.
Oui, oui, tout à fait. Ben, j'ai l'impression que les deux, dans les deux exemples qu'on donnait, les opposés finissent par se rencontrer ou sont interliés. Alors, oui, on peut s'inquiéter en riant, je pense. Ou on peut être inquiet.
Oui, oui, absolument. Puis, je veux dire, pour vivre pleinement, pour être pleinement au monde, je pense que tout ça participe de notre sensibilité. Puis c'est quand je dis le pas de recul et observer ce qui se passe dans le monde, c'est aussi s'observer soi puis être attentif à ce qui se passe en soi. C'est un peu dans le même mouvement là, qu'on fait ça.
Christian Girard, j'ai une dernière question pour toi avant de t'envoyer en lecture, puisque tu nous offres une lecture aujourd'hui. Ton ouvrage devait être publié en mars 2020. Ça a été retardé par la COVID. Et il y avait une phrase qui décrivait vraiment ce qui se passe dans ce recueil-là. Et j'avais l'impression que ça prend encore plus raison aujourd'hui. La phrase est la suivante. « Tous les regards se tourneront vers l'intérieur. On n'entendra plus qu'un vent de panique qui se cherche une issue de secours. » Comment tu places cette phrase-là aujourd'hui, en 2021?
Ah, c'est... Ben, moi, en fait, pas juste ça, mais le recueil, dès que la pandémie a commencé, c'est que mon recueil s'en allait chez l'imprimeur. C'était autour de la mi-mars, là, donc 2020. Puis là, mon éditeur m'a annoncé que l'imprimeur venait de fermer, donc on... Il était comme dans les limbes, on savait pas du tout quand il allait paraître. Et là, tout mon recueil a trouvé une résonance incroyable. Ça m'a même fait un peu peur. J'avais peur d'avoir des dons de voyance que j'ignorais, là. Mais...
ouais.
Mais non, je sais pas. Peut-être que dans mon imaginaire poétique, sans avoir... entrevu la réalité pandémique, mais j'ai peut-être poussé certains comportements ou certains états assez loin pour voir des conséquences de confinement, disons, qui étaient possibles dans le monde comme il était avant la pandémie. Là, mais honnêtement, je ne sais pas comment me l'expliquer, mais bon, c'était très étrange là, pour moi là. Tout le recueil a eu une drôle de résonance à ce moment-là.
Étrangement, c'est une sortie qui a trouvé un bon timing, on dirait, avec la situation globale. Dis-moi, Christian, qu'est-ce que tu nous lis aujourd'hui?
Ben, je vais vous lire quelques textes, donc ça sera pas très long. Je vais en prendre un de la première section qui s'appelle Trésor violent, où là, c'était plutôt cinq petits tableaux en prose que j'ai fait. J'étais plus dans une écriture un peu automatiste, inspirée du surréalisme. Donc, c'est sans titre. J'y vais avec le texte. C'est un nid d'oiseaux fous dans l'incendie du verbe, un fleuve immense dans l'échancrure de la tristesse. Ça ne regarde jamais des deux côtés d'un miroir avant de le traverser. C'est une audace parmi les décombres du monde. Ce n'est la plupart du temps qu'une leçon de silence, ou pire, la pénible science des mots de trop. Rien qu'un danger de plus, que l'on caresse en murmurant des secrets pour l'ennemi. Là, je vais passer à la section météo, donc qui est, au dire de mes lecteurs, la section qui a été le plus appréciée, puis moi aussi, c'est ma section préférée. Donc, j'y vais avec un petit bulletin. Aujourd'hui, l'air est chargé de fiction. Prenez garde aux inhalations involontaires d'accidents d'autobus, de propagande fasciste, de congédiements surprises en Ouganda, etc. La Terre est si petite et le hasard à la portée de n'importe qui. Risque plus ou moins élevé de précipitation. Le cas échéant, on annonce la possibilité de visionner à l'intérieur de chaque goutte de pluie des reconstitutions des plus grandes émeutes ouvrières de l'histoire, comme si on y était. Un autre attendu. En fin d'après-midi, le ciel, fatigué, sera d'une humeur anthracite. Il revêtira patibulaire sa plus grise cagoule de nuages et fera pleuvoir des cordes. Restez à la maison si vous ne voulez pas vous faire pendre par la pluie. Est-ce que j'ai eu le temps pour un autre?
Oui, certainement.
Oui. Attendez. Dans le courant de la semaine, on annonce des chutes abondantes d'employés lâchant leur job du haut de quelques buildings, ce qui affectera considérablement, sans doute, la circulation automobile pour quelque temps. Restez chez vous, fermez la porte et tremblez dans l'attente du grand soir. Et un autre... Excusez pour le...
Ça crée le suspense.
L'autre jour, dans un café du centre-ville, j'ai pris mes mains pour des oiseaux. J'ai tenu sa mort sous la table. Et voilà. Donc, c'était quelques extraits du « Tant qu'il fait ».
Le temps qu'il fait, c'est toi qui as écrit ça, Christian Girard. Merci énormément de ta participation aujourd'hui à Chérie, je suis poète. Dis-moi ton recueil, où est-ce qu'on le retrouve si on a envie d'en lire plus?
Ah, c'est dans toutes les bonnes librairies du Québec.
Venant d'un libraire, c'est pas peu dire.
Non, il est bien distribué, tout ça, facile à se procurer si jamais le libraire ne l'a pas en stock.
Ben, merci beaucoup pour ces courts bulletins météo poétiques. Ça m'a énormément plu. Puis en espérant te lire bientôt, Christian Girard.
Merci à toi. Donc, ça m'a fait plaisir et bonne soirée.
Merci beaucoup. Et voilà, on écoute Larynx maintenant avec la chanson Lubie. Vous êtes à Chiz 94.3. Dans quelques instants, je vous offre une mini chronique cinéma des films à surveiller puisque les salles de cinéma rouvrent bientôt. Alors, manquez pas ça, vous êtes à Chiz 94.3.
Sous la pluie.
n'est pas là ce soir, mais Nathan Murray, qui est notre chroniqueur film, a tenu quand même à nous donner quelques suggestions en prévision de la réouverture des salles de cinéma qui est imminente, si ce n'est pas une bonne nouvelle. Alors, voici quelques petits incontournables pour votre retour en salle de cinéma. On commence avec The Father, qui a quand même remporté Oscar du meilleur scénario adapté et meilleur Oscar pour, meilleur acteur pour Anthony Hopkins, qui joue. C'est l'histoire d'un père qui refuse l'aide de sa fille alors qu'il vieillit et voit son univers s'écrouler tranquillement devant lui. The Father, en fait, c'est une adaptation d'une pièce de théâtre qui se nomme Le Père. Alors ça, ce sera à l'affiche au cinéma si vous souhaitez le visionner. Nathan avait un goût particulier pour les films français, les comédies un peu à l'eau de rose. Eh bien, il y en a une à ne pas manquer à son goût. C'est Antoinette dans les Cévennes. Alors, c'est à quelques jours des vacances. Antoinette, justement, prévoyait des vacances avec son amant Vladimir. Mais voilà, il a cancelé dernière seconde pour partir en randonnée avec sa femme. Et Antoinette décide d'y aller, elle aussi. Et vous pouvez imaginer la suite. Ça s'appelle Antoinette dans les Cévennes. Ce sera également à l'affiche pour la réouverture des salles de cinéma. Ensuite, on a Nomadland, qui n'avait pas encore pris l'affiche ici au Québec et à Québec, bien évidemment. Alors, ce sera la chance ou jamais d'aller voir ce film-là au cinéma. Un film qui a raflé plusieurs prix, dont 3 Oscars pour meilleur film, meilleure réalisation de Chloé Zhao et meilleure actrice féminine pour Frances McDormand. Alors, ça raconte tout simplement le voyage d'une femme dans la soixantaine qui vit la vie de nomade moderne. Un film qui fait un grand bien au dire des critiques. Alors, si vous voulez le voir, Nomadland, ce sera également à l'affiche pour la réouverture des salles de cinéma qui devrait se faire dans les prochains jours. Et finalement, un nouveau film de Emmanuel Mouret, ça s'appelle Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ça a été présenté au Festival de cinéma de la ville de Québec, mais c'est jamais vraiment sorti sur les écrans à Québec non plus. Alors, c'est un drame à l'eau de rose de... Bon, je vous laisse découvrir la suite. Si vous visionnez la bande-annonce, vous allez avoir une très, très bonne idée. Ça s'appelle « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait ». C'est un petit drame de Emmanuel Mouret. Ça sera également à l'affiche. Alors, 4 films, 4 suggestions de notre chroniqueur film, Nathan Murray, qui sera là la semaine prochaine. On se croise les doigts, il sera là en studio en plus, si c'est pas encore mieux. Alors voilà, je voulais faire ma part, je voulais passer le message parce que moi aussi, j'ai très, très, très hâte de retourner au cinéma manger mon popcorn, même si ça implique de le manger avec mon masque. Alors, j'espère vous partager le même enthousiasme. On part en pause publicitaire dans quelques instants, tout de suite après la chanson The Original Sound de Chances, qu'on a reçu en entrevue la semaine dernière. C'était super plaisant. Alors, ça me fait plaisir de rejouer une autre chanson d'eux. Et après la pause, on parle à Josiane Paradis, qui nous a amené un premier extrait depuis 12 ans. Oui, oui, ça faisait 12 ans qu'elle n'avait rien sorti. Elle revient à la charge avec sa chanson Les coups des franges et elle va nous en parler dans quelques instants. Restez là, vous êtes à Chiz 94.3 pour Chérie, j'arrive.
It's enough, now say it. 'cause that's love. This beauty, stop thinking there's a limit, stop saying it's too much. La beauté, arrête de voir les limites, arrête de les poser. C'est assez ce qui est. It's enough, and that's love. You know what to do now.
Ceci s'adresse à tous les amateurs de punk rock, de hardcore et de ska. Depuis 2004, Punk Détente vous diffuse le meilleur de la musique d'hier à aujourd'hui. Au menu, des entrevues avec nos bands de la scène locale, les nouvelles punk rock, la liste des concerts à venir, mais surtout, vos demandes spéciales. Le tout livré directement dans vos oreilles par une animatrice complètement passionnée. Punk Détente, les mardis de 18h30 à 20h sur les ondes de Chiz 94.3.
Saviez-vous que rap, ça veut dire rythme et poésie?
Le Beatnik Show.
Le show de rap avec le meilleur flow.
À Chiz 94.3, le lundi à 20h30.
Lundi 20h30.
Avec votre animateur, Nicolas Leclerc. Pour du bon hip-hop québécois, t'as pas le choix.
T'as pas le choix.
C'est le Beatnik Show.
Merci, c'est le Beatnik Show.
Au Club Critique, on donne toujours notre 110%.
Cette tune-là fait clairement pas les ligues majeures.
On a la meilleure équipe.
Quand j'ai écouté ça, j'ai pogné un méchant 2 minutes pour interférent.
Au cœur de l'action,
j'ai plein de passes sur la palette. Je veux plus rien savoir de cet album-là.
Pour vous donner une information claire sur les nouveaux joueurs musicaux.
D'ailleurs, c'est le fondateur de ce groupe.
Des mises en échec jusqu'aux étoiles du match.
Tarsus-là, je la prends dans mon équipe demain matin.
Guillaume, Gabriel,
Émilie.
On va la mettre dans le net top corner.
Tous les mercredis, 13h.
De retour à Chéri, j'arrive à Chiz 94.3 et on continue avec une autre entrevue, en fait. Et des entrevues comme celle-là, je l'avoue, c'est un peu mes préférées. C'est les retours à la musique, les personnes qui, après un certain temps, décident de se remettre à la musique et leur... Il me semble que leur témoignage est toujours intéressant, inspirant, puis c'est beau de voir le processus qui a mené aussi au retour à la musique. Et c'est le cas de Josiane Paradis qui a pris une douzaine d'années de pause avant de nous revenir tout récemment avec sa nouvelle chanson « Les coups des franches ». Et j'ai envie de l'entendre aujourd'hui. Salut Josiane.
Salut Gabrielle.
Ça va bien?
Bonjour.
Dis-moi, comment se passe ta réintroduction à la musique avec ton extrait « Les coups des franches » ?
Ça se passe très bien. J'apprends beaucoup parce que j'ai décidé de me lancer là-dedans dans l'aventure du nouvel album avec ma propre maison de disques. Fait que j'apprends un peu toutes les comment ça marche là avant, après, puis j'ai du plaisir à le faire là à tâtons, mais c'est belle fun. Ça réagit bien. J'ai vraiment des belles réactions.
Puis dis-moi, pourquoi tu as choisi de sortir cette chanson-là avec ta propre étiquette Antilope Musique?
C'est un mélange de curiosité. J'ai ça en dedans de moi, là, l'envie de faire les choses à ma façon, à ma manière. Un mélange de ça, puis de la réalité en ce moment. Là, j'ai cogné à des portes de maisons de disques, puis la plupart m'ont dit... C'est pas que ça ne tente pas, mais le timing n'est pas bon. On a déjà, tu sais, la boîte est pleine, puis à cause de la pandémie, si on te prenait, il faudrait que tu attendes, tu sais, ton tour plus tard. Comme tu l'as dit, ça fait longtemps que j'ai lancé un album. Je n'étais plus capable d'attendre. Il faut vraiment que ça sorte, que j'accouche, entre guillemets. Fait que, ouais, je me suis dit, c'est ma chance d'essayer ça, moi, de le faire à ma façon. Puis, 2021, là, ça se fait comme peut-être un peu plus facilement que ça, si j'avais essayé ça il y a 10 ans, mettons.
Oui, effectivement, mais c'est bien de savoir que tu t'es créé ta propre opportunité pour en finalement accoucher de ta musique, comme tu dis si bien. Et tu le mentionnais d'ailleurs un peu plus tôt, ça faisait une dizaine d'années, voire une douzaine, que tu n'as rien sorti. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années-là?
Mais j'ai pas rien sorti. Mon album complet, le premier, le seul que j'ai fait, c'est en 2008. Mais entre-temps, parce que j'ai eu des enfants, ben j'ai été lente là à me décider à recréer des chansons. Puis avant de réussir à faire un deuxième album, je suis tombée enceinte. Puis une autre fois, fait que là j'ai deux enfants.
Okay.
Alors ça ralentit pas pire la.
Oui,
dans les activités artistiques. Surtout que mon chum est musicien, puis il est musicien de tournée et de studio, fait qu'il est souvent parti. Ça prend quelqu'un à la maison. Fait que parce que c'est plus fort que moi, j'ai quand même créé des chansons depuis 2008, là. Et j'ai lancé en 2013 Katoum, un EP finalement, puis en 2016, l'année de la naissance de ma deuxième, deux tonnes. J'appelais ça un diptyque.
OK, alors...
Ça se dit, oui.
C'est quoi de dire que tu n'as pas chômé?
Non, j'ai vraiment pas chômé. Mais je pense que c'était bénéfique, dans le fond, que l'album qui s'en vient à la fin de l'été, là, ils prennent tout ce temps-là à sortir, à se créer, à se peaufiner. J'en suis vraiment fière. Ben déjà, il n'est pas sorti, mais il est fini. Fait que je suis capable de dire que je suis fière de ce qu'on aurait réussi à faire, moi et tous ceux qui ont collaboré dessus. Là. C'était du beau, je pense. Là, avec des beaux arrangements de cordes, des arrangements de vent aussi, là, cuivre et clarinette. Bien contente de ce que ça donne.
C'est intéressant que tu dises que c'est bien que cet album-là ait pris le temps d'arriver, parce que juste ta chanson, Les coups des franges, c'est une invitation à prendre du recul, à arrêter d'attendre, à prendre soin de soi et à prendre le bonheur en main. Ouais. Comment on fait pour faire tout ça, en fait?
Oh, la question!
C'est une grande question, mais je me disais, bon, tu dois avoir une idée.
Je pense que c'est à force de... Peut-être à force de cogner le nez à des frustrations, de trébucher sur des affaires, de répéter finalement de revivre des expériences pas le fun, ben on finit par dire ok, qu'est-ce que je vais faire là pour que ça change, je vais prendre un recul, puis je vais m'enligner autrement, tu sais, puis des fois s'enligner autrement, c'est se prendre une distance puis laisser l'autre ou une partie de toi, parce que cette chanson-là, j'ai de la misère à la définir. Je parle pas de mon chum, je parle même pas d'un ex. C'est bizarre. Je pense que c'est une partie de moi. Là, toi qui crois pas plus ou moins en moi ou en nous, là, je te laisse aller, je te laisse faire tes apprentissages, puis continue, puis je choisis d'aller mieux, je choisis d'être mieux.
Puis pourquoi ce message-là, il est important pour toi assez pour le transformer en chanson?
Ah, ça, je sais pas répondre à ça. C'est plus fort que moi. Je dirais que j'ai mis ces mots-là. Ça fait partie des chansons que des fois, je me demande comment ça se fait que ça s'est retrouvé sur le papier. Parce que moi, j'utilise encore le crayon puis le papier pour écrire mes chansons. Tu sais, c'est... Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a d'autres chansons que c'est plus clair, là, où je témoigne de quelque chose, où je déverse soit mes contentements ou une grande joie. Puis là, ça en est une que... OK, c'est l'écriture spontanée, l'écriture automatique... au départ, puis après j'ai formé la chanson, puis ça a donné ça. Peut-être plus grand que moi, finalement.
Bien, je pense que c'est un message qu'on essaie d'assimiler, je veux dire, c'est peut-être pas le bon verbe, là, mais qu'on essaie d'inscrire un peu dans nos habitudes de prendre le temps, de prendre du temps pour soi, plus particulièrement dans la situation pandémique qu'on vit présentement. Je trouve que d'avoir ton témoignage, c'est très intéressant. Puis dis-moi, l'album que tu vas sortir à la fin de l'été, au début de l'automne, est-ce qu'il continue dans cette voie-là, dans ce message-là, de prendre le temps, de prendre du recul, d'arrêter d'attendre?
Ben oui, ça fit. Ça parle pas juste de ça, bien sûr, mais c'est, je crois que c'est un, j'ai bien choisi le premier extrait parce que ça donne le ton. Choisir d'être bien, d'être mieux, de, parce que oui, tu sais, à l'âge où je suis rendue, puis j'ai plus envie là de me casser la tête puis de rester dans ce qui est inconfortable. Non, non.
Ouais. Mais c'est compréhensible, puis ben, je trouve ça le fun que tu le fasses, pour vrai. À t'entendre, je trouve ça le fun. Je veux glisser également un mot sur le clip qui accompagne la chanson « Les coups des France », Josiane Paradis. C'est une création de toi aussi?
Oui, ben oui. Tu sais, comme je disais, j'ai produit cet album-là moi-même, puis je le lance moi-même. Mais avant d'avoir des revenus de tout ça, ben ça va prendre du temps parce qu'il y a toujours un délai. Et donc, j'avais pas de budget pour le clip, non. Non, pas de budget, mais j'avais des images de route, puis je trouve ça beau, moi, les clips avec les images de route. Fait que je me suis dit, ah, je vais m'essayer à ça aussi. Je suis pas mal contente de ce que ça donne. C'est fait maison, puis c'est un montage humble, mais senti.
Ben, humble comme la chanson, finalement. Alors, c'est encore là, c'est un bon fit, à mon sens.
Ben oui, merci. Je pensais que ça fitait.
Puis là, pour les prochains mois, Josiane Paradis, qu'est-ce qui t'attend? Parce que, bon, là, cette chanson-là est sortie. On sait que l'album arrive à la fin de l'été, mais entre tout ça, qu'est-ce qui t'attend?
Préparer la sortie de l'album, mais entre-temps, c'est ça. Au moins deux autres extraits, oui. Un en juin. Puis un autre à la fin juillet, je pense, quelque chose comme ça. Donc, deux extraits à dévoiler, des clips qui vont aller avec ces extraits-là. Recommencer à pratiquer plus parce que, tu sais, ça fait longtemps là, que j'ai pas joué sur scène.
OK. Alors, ce sera une belle réintroduction. Et puis, si jamais on a envie d'écouter ce que tu fais ou juste de prendre de tes nouvelles, où est-ce qu'on va?
On peut me trouver sur Facebook, Instagram. J'ai aussi un Bandcamp. J'ai une infolettre, mais il faudrait que je trouve une façon que les gens ils s'inscrivent à mon infolettre. Là, j'ai pas trouvé encore comment.
Okay.
S'il y a quelqu'un qui le sait, vous me direz. Parce que j'en ai une, mais sinon, un Bandcamp, la chaîne YouTube. Là, il y a une façon de me rejoindre. Là.
Ben,
par les internets.
C'est bien, parfait. Josiane Paradis, je te souhaite beaucoup de succès avec ce projet-là. Et nous, on va entendre ta chanson tout de suite.
C'est bien gentil, Gabrielle. Merci.
Merci beaucoup. Et voici Les coups des franches, ce dont on parle depuis déjà quelques minutes avec Josiane Paradis. C'est elle qui l'a écrite. Cet album-là va sortir sous sa propre étiquette. Le clip est de sa création aussi. Alors, c'est la moindre des choses que de la diffuser. Vous êtes à Chiz 94.3. Dans quelques instants, on entre dans nos chroniques de Chérie, j'arrive du mardi. Merci d'être là. Vous êtes à Chiz 94.3.
Sur la liste de tes ambitions, je vais retenir de mon mieux les mille et une questions. Jamais je ne serai revanche, même pas les mains sur les hanches. Sur nous deux. J'ai
veille sur nous deux.
On est actuellement, actuellement, dans la semaine de la famille jusqu'au 16 mai prochain. Il y avait également la Journée internationale des familles. Puis, bon, c'est quand même quelque chose, c'est vraiment dans la thématique de la semaine. Alors, on s'est dit, pourquoi ne pas réfléchir sur ce qu'est la famille dans la société? Mm-hmm. Et Alex Tremblay-Lamarche nous arrive, fidèle à son habitude, avec trois ouvrages, justement, pour poursuivre cette réflexion-là. Alex, comment s'est passée ta recherche?
Eh bien, ce que j'ai voulu, c'est être capable de voir la famille dans un temps long au Québec. Comment est-ce qu'elle s'est développée? Comment est-ce que, justement, bon, elle s'est d'abord ancrée dans le territoire avec l'immigration des premières familles françaises. Puis, bon, ben, de voir comment est-ce qu'elle s'est transformée au début du 19e siècle. Puis, ben, finalement, au 20e siècle, comment est-ce qu'on a documenté l'histoire de ces familles-là? Donc, j'ai trouvé trois ouvrages qui nous permettent de voir un petit peu l'histoire des familles canadiennes françaises, l'histoire des familles autochtones serait un autre sujet qu'on abordera éventuellement.
C'est une bonne idée et je rebondis sur le fait que au Québec, on a bien documenté les registres de famille. Ça nous amène à un premier ouvrage qui se nomme « Naissance d'une population, les Français établis au Canada au 17e siècle ». C'est Hubert Charbonneau qui a écrit ça et on décrit comment le Québec a vraiment bien conservé de ses archives familiales. Peux-tu détailler un peu?
Oui. Cet ouvrage-là, c'est le premier ouvrage à être publié à partir des données du PRDH, le Programme de recherche en démographie historique. Et bon, ben, plus spécifiquement, en fait, son registre du Québec, de la population du Québec ancien. Les généalogistes, les historiens connaissent ce programme-là, connaissent ce registre-là qui est vraiment une mine d'or. Mais monsieur, madame, tout le monde le connaissent un peu moins. Et donc, pour mieux être capable de mesurer l'importance du livre, il faut être capable de d'abord comprendre qu'est-ce que cette base de données. Eh bien, cette base de données, grosso modo, c'est tous les actes de baptême, de mariage et de sépulture qui ont été enregistrés en Nouvelle-France entre 1621 et 1799.
C'est fou qu'on ait conservé ça, hein?
Oui. On parle de plus de 86 000 actes qui ont tous été informatisés, qui ont tous été entrés dans une base de données. Et là, bon, on se dit, OK, oui, des actes de baptême, qu'est-ce que ça peut donner? Mais bon, ce qui nous intéresse, c'est pas tant le baptême. Ce qui nous intéresse, c'est que le baptême rend compte de la naissance. Le mariage permet justement de voir quand une famille se noue et éventuellement de voir, bon, les enfants qui vont en naître. Éventuellement, ben, l'acte de sépulture permet de voir la mort, donc l'âge auquel quelqu'un meurt. Éventuellement, on est capable de voir le temps qu'il y a entre le moment où une femme se remarie après le décès de son époux, le nombre d'enfants moyens que va avoir un couple. Est-ce que les couples sont plus fertiles au Québec qu'en France à la même époque? Et donc, ce programme de recherche-là a permis d'accumuler des données vraiment extraordinaires sur le Québec. On parle en fait, bon, il n'y a aucune aucune autre population au monde en contexte pionnier qui a des données aussi précises. Si on a des données aussi précises, c'est parce que bon, ben, tout le monde était catholique, donc systématiquement la naissance, les mariages et les décès étaient enregistrés. On n'a pas eu de guerre sur le territoire qui ont détruit les archives et donc tout ça a été conservé pour la postérité. Et donc, on est vraiment capable de suivre l'évolution de la population québécoise. Et dans le cadre de cet ouvrage-là, eh bien, ce qu'on met de l'avant, c'est comment une population française s'établit de l'autre côté de l'Amérique, pas de l'autre côté de l'Amérique, mais de l'autre côté de l'Atlantique en Amérique. Et bon, comment est-ce qu'elle évolue? Et donc, même si c'est un ouvrage qui a été publié pour une première fois en 1987 et qu'on en offre ici une réédition, il demeure toujours autant pertinent en raison, effectivement, de la qualité, puis bon, du côté particulièrement intéressant puis précieux, en fait, des données qui en permettent la rédaction.
Et est-ce que c'est dans ce livre-là qu'il y a des tableaux super intéressants à décortiquer?
Oui! on compte, en fait, plus de 150 tableaux. C'est un ouvrage de démographie historique. Et donc, il y a des chapitres qui peuvent peut-être être un petit peu plus techniques, si je peux m'exprimer ainsi, mais dans ce cas-là, aller vers les conclusions des chapitres qui sont très accessibles, qui, bon, permettent, en fait, de saisir les différences. Lisez les tableaux. Les tableaux, justement, vont vous permettre de bien voir rapidement, bon, les différences d'âge auxquelles on se marie, bon, l'âge moyen du mariage, ce genre de choses-là. Et, bon, il y a deux tableaux à la fin en annexe qui risquent d'intéresser nos auditeurs. C'est que, bon, deux tiers des Canadiens français aujourd'hui, à peu près, descendent de ce groupe de gens qui immigrent ici au 17e siècle. Et donc, on voit le nombre de descendants que ces gens-là comptent en 1729. Et c'est ça, j'ai décidé de regarder du côté des Morissette.
OK. J'allais justement te demander si j'ai le goût de faire des recherches là-dedans. Est-ce que je trouverais? Ben alors, ma réponse est oui. Vas-y donc, qu'est-ce que tu as trouvé par chez nous?
En 1729, si je ne m'abuse, il faut juste que je retrouve le chiffre que j'avais noté. Oui, Jean Morissette, le premier pionnier à venir s'établir ici, comptait 123 descendants en Nouvelle-France. Et donc, on est bien loin, en fait, de l'homme qui comptait le plus de descendants à cette époque, en 1729.
Est-ce que c'était un Tremblay?
Non, même pas. C'est pas un Tremblay. C'est Jean Guyon, dit Dion. Donc, c'est un Dion. Parce que, bon, ce qu'il faut penser, c'est que, oui, effectivement, les Tremblay sont les plus nombreux, mais c'est parce qu'ils ont eu des garçons. Mais il y a certaines familles où ils ont eu énormément de filles, et donc, en nombre de descendants, bien, ça paraît pas tant que ça dans les noms, mais ça paraît quand même. Même chose du côté de Jacques Archambault, qui, lui, 1825 descendants vivants en 1729, et Zacharie Cloutier, qui lui est en deuxième position avec 2090 descendants. On compte parmi les descendants de Zacharie Cloutier, entre autres, des gens comme Madonna, Hillary Clinton, probablement
ouais.
Toi et moi aussi.
OK.
On est donc des petits cousins. Et donc, vraiment, c'est un ouvrage qui permet d'être capable de voir, bon, ben, de s'amuser un petit peu pour le fun là, en regardant ces tableaux-là, mais aussi de voir les différences qu'il y a entre les Français et les gens de la Nouvelle-France sur le plan démographique à l'époque. Notamment, bon, comme il y a moins de filles puis plus de gars en Nouvelle-France, ben, ça fait que ça va tout à avoir des incidences sur le marché matrimonial. Les hommes vont se marier un peu plus vieux parce que les femmes, justement, ben, vont vouloir aller vers des parties qui sont un petit peu plus riches, un petit peu plus établies. Tu sais, pourquoi aller vers un gars dont la terre est encore en bois debout alors qu'il y en a un autre à côté que sa terre est déjà déforestée un petit peu? Le bois est déjà un peu abattu. Il y a déjà une belle maison de construite, donc ça va être un peu plus confortable. Les femmes se marient plus jeunes et ça donne aussi qu'il y a plus de veuves parce que les hommes marchent
plus
souvent.
Oui, il meurt en
premier. Et les femmes se remarient plus. Donc, on voit cette différence-là en Nouvelle-France qui va teinter l'ensemble de la vie familiale. Et donc, un ouvrage vraiment intéressant pour être capable de comprendre ces différents phénomènes-là, la nuptialité, la mort, le destin justement de ces familles-là, la fécondité. Mais vraiment, bon, pour bien saisir effectivement les débuts de la vie familiale en Nouvelle-France.
Excellent choix d'ouvrage dans le cadre de la semaine de la famille qu'on traverse présentement jusqu'au 16 mai. Cet ouvrage-là s'appelle « Naissance d'une population, les Français établis au Canada au 17e siècle ». C'est la deuxième édition de ce livre-là. Alors, c'est très intéressant si vous êtes curieux de de retracer le destin de votre famille. Rien de moins. C'est l'ouvrage auquel vous devriez vous référer. Notre deuxième parle encore de mariage et de famille. C'est Mariage et famille au temps de Papineau. C'est Serge Gagnon qui a écrit ça. Finalement, qu'est-ce qu'on retrouve dans cet ouvrage-là, puis pourquoi il est pertinent dans ta chronique aujourd'hui?
Serge Gagnon, peut-être un petit mot sur lui qui va nous permettre de comprendre la pertinence de l'ouvrage et de ce dont il parle. Serge Gagnon est un historien des mentalités, un historien de la religion, mais pas de la pratique religieuse en tant que telle, mais plutôt de l'incidence qu'a la religion sur la vie des gens. Et donc, il a fait une trilogie particulièrement importante au tournant des années 90 sur la mort, la sexualité et effectivement l'amour et la vie familiale, si on peut s'exprimer ainsi. Et ce qu'il regarde dans tous les cas, c'est à partir de la correspondance des prêtres avec les évêques, eh bien, qu'est-ce que ça nous révèle sur la façon dont on vit la vie familiale? Qu'est-ce que ça nous révèle sur la façon dont on veut faire les couples? Parce que, les prêtres sont responsables de faire régner la norme, si on peut s'exprimer ainsi. Et, dans certains cas, il y a des cas qui se présentent comme, mettons, un tel veut marier sa cousine. Ça, normalement, c'est pas supposé. Et donc là, on va avoir un prêtre qui va écrire à l'évêque et qui va lui dire « qu'est-ce que je fais avec ce cas-là? » Dans certains cas, on va voir que si vous avez de l'argent, généralement, l'évêque est plus indulgent. S'il y a des protestants qui sont à côté ou si vous êtes à côté des États-Unis, il y a également une plus grande indulgence parce que ce qu'on va voir, c'est que les gens, pour mener à bien leur projet, effectivement, de famille, dans certains cas, n'hésiteront pas à aller se marier aux États-Unis ou à aller se marier du côté des protestants. Et donc, on voit l'encadrement paroissial est plus fort dans les zones où c'est, disons, presque 100% catholique et moins fort dans les zones où il y a une proximité avec le protestant.
Les gens cherchaient la flexibilité, en fait.
Ouais. Exact. Et donc, ça nous permet de découvrir aussi que la famille est loin d'être aussi, monotone qu'on pourrait le penser avec toujours un père, une mère, canadien, français, etc. Là.
Oui, parce que, on constate dans cet ouvrage-là que c'est pas tous les couples qui veulent se soumettre au cadre que leur indique l'Église catholique. Comme tu le disais, ils partent se marier aux États-Unis, etc. Mais est-ce qu'on... c'est expliqué dans ce livre-là? Comment ils ont décidé de se rebeller, entre guillemets, puis qu'est-ce que ça a donné au final?
Ce que ça donne, c'est que il y a toujours une espèce de volonté de l'Église de recadrer. Souvent, c'est des rébellions qui sont un petit peu plus ponctuelles, c'est pas organisé, c'est pas... c'est ça. Puis on négocie toujours un peu au cas par cas. T'sais, on le voit effectivement dans les unions avec les Autochtones, dans les unions aussi avec des gens d'autres classes sociales ou des unions avec des gens d'autres religions, comme le documente en fait très bien Serge Gagnon dans cet ouvrage-là, les problèmes des fois que ça cause. On voit également, pour l'Église, le mariage est indissoluble. Il n'y a que la mort qui peut justement le y mettre terme. Or, il y a déjà à l'époque, malheureusement, des cas de violence conjugale. Et face à ça, effectivement, souvent le prêtre va tenter de s'imposer un peu comme médiateur, va essayer de raisonner un petit peu le mari, essayer de protéger la femme, mais c'est ça, le mariage étant indissoluble, il va quand même essayer d'encourager le couple à rester effectivement uni tout en essayant de régler le problème. Donc, il y a une sensibilité sans pour autant effectivement vouloir séparer le couple. Donc, vraiment, un ouvrage qui nous permet de rentrer dans l'intimité de la vie familiale par justement tous ces problèmes-là qui sont soulevés par les prêtres, tous ces problèmes-là que nous apprend la correspondance des gens de l'époque et qui nous permettent de voir comment concrètement se forment les couples, comment justement se vit la vie de couple et comment elle est perçue effectivement par la norme et comment elle se rebelle parfois un petit peu contre la norme à petite échelle.
Alors, une belle comparaison à faire avec peut-être nos situations familiales et amoureuses actuelles. Ce livre-là, c'est « Mariage et famille au temps de Papineau », une deuxième édition encore de Serge Gagnon. On jase famille aujourd'hui parce qu'on est dans la semaine québécoise de la famille jusqu'au 16 mai. Et on avait envie un peu de retracer nos familles, viennent de où, puis de réfléchir là-dessus. C'est ce qu'Alex Tremblay-Lamarche nous propose aujourd'hui. Le troisième ouvrage, on va passer rapidement dessus. Ce qui nous plaît beaucoup là-dedans, c'est les photos.
Oui.
Mais on va quand même en glisser un mot. Ça s'appelle « Les familles Bélanger et Dionne, une histoire d'amour à Beauport ». C'est Louise Michaud qui est la bru de cette, du couple qui... D'où est-ce que ça part, en fait?
Exact. Donc, cet ouvrage nous raconte, grosso modo, l'histoire de Clovis Bélanger, qui est né, bon, au début du 20e siècle à Beauport et qui, bon, a vécu sa vie, justement, dans cette paroisse, qui a pris pour épouse Lucille Dionne. Et donc, on voit effectivement l'histoire de cette famille-là sur une centaine d'années, voire un peu plus, tout au long du 20e siècle, parce qu'on va aller chercher, effectivement, leurs parents et leurs grands-parents. Et bon, c'est raconté par Sabru en collaboration avec Clovis Bélanger, comme on le dit sur la page couverture, parce que souvent, on va avoir des passages en italique où on a des souvenirs de Clovis Bélanger qui nous parle bon, un petit peu de ses grands-parents, de sa jeunesse, et donc ça rend la chose très vivante. C'est un ouvrage qui, on ne se le cachera pas, est peut-être un petit peu pointu parce que bon, ça parle surtout aux descendants, j'aurais envie de dire, de Clovis Bélanger et de Lucille Dionne. N'empêche, si vous venez de Beauport, si vous avez envie de voir des photos de gens qui se baignent par exemple dans la rivière Beauport, la rivière Montmorency, des commerces qu'il y avait justement le long de l'avenue Royale, de la vie familiale, des gens de cette famille-là qui sont rentrés dans des ordres religieux, notamment bon, les pères blancs en Afrique, comme c'était beaucoup le cas dans plein de familles, d'avoir des enfants qui rentrent en religion. Donc si vous avez envie de voir peut-être un petit peu l'évolution d'une famille en photo sur une centaine d'années, bien, c'est un ouvrage qui risque de vous plaire parce que, bon, ben, ils ont en fait un superbe album photo qu'ils nous partagent. Mais bon, c'est sûr qu'on reste du côté de quelque chose qui est quand même niché sur une famille en particulier et qui aurait gagné peut-être avoir un petit peu plus d'ampleur pour être capable de mieux rejoindre des gens qui ne sont pas de Beauport ou de cette famille.
En fait, ça nous faisait réfléchir à l'extérieur des ondes, Alex, qu'il y a plusieurs familles qui font ça, justement. Ils créent un livre avec les archives, les souvenirs, les témoignages des gens de leur famille. Moi, je sais que de mon côté, mon grand-père a écrit sa biographie. Donc, on retrace ses études, ses souvenirs d'enfance, sa rencontre avec ma grand-mère. Puis ça parle même de moi à un moment donné. Mais toi aussi, Alex, tu as fait un projet dans cette veine-là. Alors, je trouve que ça, c'est un bon exemple de comment on... Quelle utilisation on peut faire peut-être de vieilles photos, de vieilles lettres qu'on trouve? Alors, je pense que ça peut être une belle source d'inspiration si vous voulez perpétuer la mémoire de votre famille, on va le dire comme ça.
Oui, je suis assez d'accord avec toi, effectivement. Pour quelqu'un qui voudrait bon, rendre hommage à ses grands-parents, rendre hommage effectivement à sa famille, qui voudrait faire une histoire familiale, on a là un modèle auquel on peut puiser. Et donc, une face... En fait, c'est ça. Louise Michaud documente vraiment l'histoire d'une famille sur un siècle en photo, en anecdote et en court récit pour ceux qui s'intéressent à l'histoire familiale.
Alors, ça s'appelle « Les familles Bélanger et Dionne, une histoire d'amour à Beauport, c'est Louise Michaud qui a écrit ça et qui a rassemblé les photos, il faut le dire, hein. C'est surtout un ouvrage de photos. Ça fait partie de la chronique d'Alex Tremblay-Lamarche aujourd'hui, où est-ce qu'on réfléchit sur les familles québécoises, puisqu'on est dans la semaine de la québécoise des familles jusqu'au 16 mai. Alors, on a parlé d'un premier ouvrage, Naissance d'une population, les Français établis au Canada au 17e siècle, de Hubert Charbonneau. Ensuite, on a parlé de mariage et famille au temps de Papineau, de Serge Gagnon. Et finalement, les familles Bélanger et Dionne, une histoire d'amour à Beauport, de Louise Michaud. Si vous êtes intrigué par tout ça, sachez que Alex nous met toutes ses suggestions avec des photos, même des descriptions des livres, tout ça sur le blog de chez.ca sous l'onglet de Chérie, j'arrive. Puis en terminant, Alex, qu'est-ce qu'on en conclut des familles québécoises? Ça a-tu bien changé?
Oui, quand même. Je dirais qu'on a beaucoup plus de... la famille a beaucoup plus de... beaucoup moins de poids dans les choix individuels qu'elle en a eu à une certaine époque. Les gens, justement, bon, pensent davantage à la famille aussi en termes de plus petits nombres. C'est fini les familles de 10, 15, 20 enfants. Et donc, oui, effectivement, il y a des grands changements qui ont eu lieu depuis 400 ans en histoire de la famille au Québec.
Bien, j'ai l'impression aussi qu'on en parle plus aussi. C'est... moins fermé les situations familiales. On est vraiment plus ouvert là-dessus. Et c'est une très, très bonne chose. Merci beaucoup, Alex, de ta participation et bon retour en studio.
Oui, ça fait du bien.
Ça fait du bien, certain. Et nous, on va aller en musique tout de suite avec Bruno de Valence. Il y aura une courte pause publicitaire. Et de l'autre côté, c'est Alex Barrière-Jean qui nous parle des nouveautés télé qu'on va pouvoir visionner sous peu. Vous êtes à Chiz 94.3.
We'll be right back. Écoutez Chiz 94.3 FM à Québec.
Il ne paye pas le prix!
Tu veux ta dose de sport quotidienne?
La dureté du mental!
Incroyable!
Écoute Chiz 94.3 du mardi au jeudi de 15h à 16h.
OK, gars. Montrez-nous ce que vous savez faire.
Conduite antisportive, c'est la réunion des meilleurs passionnés de sport à Québec qui vous parle de l'actualité sportive. Hockey, football, baseball, soccer, curling, béton, chasse et pêche... Et bien plus! Conduite en sportive, c'est du mardi au jeudi, dès 15h, seulement sur les ondes de Chiz 94.3.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés. Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 11h sur les ondes de Chiz 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
De retour à Chérie, j'arrive à Chiz 94.3 et on jase maintenant télé, on a lu... On a écouté la musique, on a eu de la poésie. Maintenant, c'est la télé. Et j'ai Alex Baillargeon avec moi. Salut.
Salut.
Comment ça va?
Ça va bien.
Good. Fait que là, on a des une nouveauté et deux émissions qui sont annulées.
Oui, exactement. Ben, on va y aller par l'annonce qui est la plus près de nous, qui est une nouvelle série télé qui verra le jour. Sans surprise, c'est une série policière.
Oh!
Comme on s'en fait une expertise à quelque part du côté québécois. Donc, c'est Julie Perreault qu'on verra dans le rôle de Alice Martin, qui est une policière d'expérience qui va se joindre au groupe d'investigation sur les crimes à caractère sexuel.
Oh boy! Okay.
Donc, on va donner dans ce domaine-là pour cet univers-là. Donc, Julie Perreault qui revient dans un rôle-titre après l'échappée, parce qu'elle a quand même tenu le rôle pendant 5 ans, avant de quitter et avant que la série devienne de plus en plus étrange. Pour les gens qui continuent à le regarder en ce moment, cette série n'est plus du tout ce qu'elle était à la base, même que je pense le centre pour jeunes est rendu une prison pour jeunes. Fait que, t'sais, ça devient de plus en plus bizarre. Et au lieu de l'arrêter, ben, on continue et on tire le plus de jus possible. Donc, Julie Perreault, voulant relever de nouveaux défis, se transportera maintenant du côté de Radio-Canada. Ça devait être Pods qui tourne la série. Finalement, c'est un autre réalisateur qui va se joindre au projet. Donc, ça va être presque été une réunion avec entre Julie Perreault et Pods qui ont travaillé entre autres sur 19-2 et Minuit le soir. Donc c'était quand même des bonnes collaborations. Pour cette série-là, on retrouvera notamment Kathleen Fortin, Nadia Ezadji qui, qu'on connaît sous le nom de la bronze, Chali Arquette, Bruno Marcil, Marc-André Grondin, qui se retrouvera au casting, David Boutin, Karel Tremblay, Eve Landry et autres acteurs qui seront dans cette série-là. Donc, après cette sabbatique-là, un projet pilote qui est initié par le chef de la police, Pascal Alario, qui est Bruno Marcil, je pense, David Boutin. Et bon, Alice ne sera pas très contente qu'un homme vienne s'installer dans cette équipe-là en la personne de Marc-André Grondin. Donc, évidemment, ben, on traite de caractère sexuel, de crime à caractère sexuel, de rajouter une dynamique différente. Donc, ce sera l'un des sujets qui sera abordé dans cette série-là. Et évidemment, ben, c'est une unité d'enquête spéciale, donc on ne sait pas exactement à quel point ils seront non conformes, ou en tout cas qu'ils seront une équipe un peu spéciale sur le terrain. Donc, ça se déroulera en partie dans ce poste de police-là.
Et ça s'appelle comment? Puis on va voir ça où et quand?
Ça s'appelle « Doute raisonnable ». Ça sera probablement une seconde parole, et vu que ce n'est que la parole d'un contre l'autre dans ce genre de crime-là, tout va tourner autour de ça. Donc, ça devrait être... le tournage, en fait, va débuter la semaine prochaine.
OK.
Fait que c'est vraiment imminent. C'est vraiment dans les prochaines semaines. Donc, ce sera dans un premier temps sur l'extra de tout.tv, soit cet automne ou au début de l'hiver prochain, pour une diffusion, j'estimerais donc, à l'automne suivant, donc automne 2022, dans le cas de cette série-là, si tout va bien.
Et là, il y a eu des annulations également d'émissions. C'est les puis est-ce que ça affecte notre programme télé habituel?
Oui et non. Ça, c'est si on regarde la télévision vraiment de manière très, très large, parce que ce sont des annulations du côté américain. Et ce sera notamment le cas d'Ellen DeGeneres, qui terminera finalement son émission au terme de la saison actuelle, talk show qu'elle animait depuis 2003 quand même.
Oui, je pensais pas que ça faisait aussi longtemps.
Ça fait vraiment longtemps, mais bon, dans la dernière année et demie, disons que les scandales se sont empilés sur l'émission d'Ellen DeGeneres, qui notamment a un peu abusé de son pouvoir de productrice et qui a créé un climat de travail plus ou moins agréable. Donc, les gens étaient sortis pour mentionner, entre autres, que, bon, Ellen DeGeneres n'était peut-être pas aussi gentille qu'elle le prétendait. Du moins, elle termine toujours ses émissions en disant « Soyez gentils les uns avec les autres ».
C'était ironique.
Elle n'appliquait pas elle-même son propre dicton qui ponctuait toutes ses émissions. Donc, l'annonce survient voilà, donc après un an que bon, les collaborateurs, autant assez proches que des gens de l'équipe technique. Donc, tu sais, c'était pas que certains individus, c'est vraiment unanime que, bon, Ellen n'avait pas une belle attitude de travail. Et, bon, l'idée de mettre fin à son talk show avait quand même germé dans son esprit. Disons que probablement ces scandales-là ont motivé, on va dire, sa décision d'aller relever de nouveaux défis. Dans le cas, bon, d'Ellen... Voilà, donc elle était quand même là, c'est comme on le dit, depuis 2003, donc ça fait presque 20 ans.
Oui, puis son dernier épisode va être quand?
Son dernier épisode va être d'ici la fin du printemps, sauf erreur. En tout cas, elle devrait terminer incessamment, donc à la fin de la présente saison, ça sera terminé pour elle. De toute façon, justement, parce qu'il y a eu ce petit climat de tension-là, les invités sont un petit peu moins prompt à répondre, absolument présent. Donc, ces acteurs et ces artistes, musiciens, etc., qui se garrochaient pour aller sur le plateau d'Ellen, ça faisait un petit peu plus discret dans les dernières semaines.
Et même elle.
Et voilà, et même elle prenait quelques semaines des fois de pause. Donc, il y avait des co-animateurs remplaçants qui venaient sur le plateau. Donc, c'était plus du tout l'émission qui en était. Puis évidemment, ben le public de cette émission-là était l'espèce de moteur, mais plus de public, c'est la COVID. Donc, on avait installé des écrans de télé pour avoir des gens qui étaient en direct de leur maison pour faire quand même un genre de public. Fait que tu sais, la formule de ces émissions-là, surtout du côté américain, nous, on a quand même eu Marina Orsini pendant 4-5 ans, qu'elle avait des personnes âgées dans le fond de son décor pour applaudir quand c'était drôle, puis tout ça. Ce genre d'émissions-là de service, on peut dire, d'émissions d'entrevue, d'après-midi, très populaire aux États-Unis, nous, au Québec, beaucoup moins, mais ça tend tranquillement, pas vite, à peut-être un petit peu disparaître, veut pas, puis surtout qu'avec les publics disparus. ça aide un peu à revoir ces formules-là, mais dans le cas d'Hélène, ça sera terminé à partir de l'automne prochain.
Et pour la deuxième annulation, toujours du côté américain, on parle télé, là.
Oui, on continue à parler télé. Mais dans ce cas-ci, c'était un peu prévu d'avance, mais c'est sûr que là, ça devient de plus en plus concret. C'est la série This Is Us qui va tirer sa révérence après la saison 6.
Quand même!
Que les tournages devraient débuter cet été. On rappelle, pour la saison 5, évidemment, on a quand même tenu à faire les tournages réguliers, mais dans la partie présente, donc dans la partie qui se passe dans les années 2020, veut pas, la COVID est présente, donc on a fait en sorte que les acteurs portaient le masque pendant la série, se déplaçaient dans des lieux avec le masque, donc on a joué avec le fait que l'actualité en ce moment, et ça, c'est qui est toujours à l'honneur de This Is Us, c'est d'être le plus près possible de la réalité lorsqu'on est dans les années 2000. Dans le cas, de cette saison 5, on a joué avec le fait que le masque devait être porté, donc les personnages portaient le masque pendant la série, comparativement à d'autres séries qui vont faire comme s'il n'y en avait pas. Veux pas aussi, This Is Us, on va dans le passé. Fait que c'est sûr que pour les flashbacks des années 90, on a peut-être... En tout cas, on a les protocoles de tournage aux États-Unis sont probablement pas les mêmes que les nôtres, donc on a dû isoler les enfants de certaines des différentes époques pour pouvoir être capable d'avoir une proximité avec eux, j'ose croire. C'est sûr que ça a dû être un défi technique du côté américain, mais il y avait d'autres entrevues qui avaient été faites par le passé qui disaient, après 6 saisons, on va penser avoir fait le tour. De toute façon, les enfants de 12 ans arrivent à 18 ans et là, on vient en conflit avec les enfants de 18 ans. Parce que c'est plus les mêmes. Fait que c'est pour ça que, veut pas...
Ça tirait à sa fin, naturellement.
Il y avait une fin qui allait arriver de toute façon parce que, justement, les enfants vieillissent puis veut pas pour que ça continue à marcher dans la chronologie. On peut pas garder techniquement ces enfants-là. Donc, veux pas, la série était vouée à s'arrêter à un moment. Mais un véritable coup de cœur, vraiment. Tous les gens qui habituellement regardent cette série-là sont toujours en amour avec la vérité de cette série-là. Moi-même, pour avoir regardé en rafale la saison 4 dernièrement, je suis retombé peut-être en amour avec cette série-là. La saison 3, qui avait peut-être eu un petit creux, veux pas, pour une série, c'est un peu normal qu'il y ait toujours une petite saison un peu moins forte que les autres, mais vraiment, la saison 4 se terminait avec une espèce de conflit entre les deux frères.
Hey, disons pas trop, là.
Non, mais ça, c'est connu, là. Ça, c'est dans le scénario de base, là. Ça, c'est... Il y a des tensions au sein de la famille, mais justement, vu qu'on est au courant qu'il va y avoir des tensions, on est toujours dans le... Mais ça va être quoi, le conflit? Mm-hmm. Qu'est-ce qui va faire en sorte qu'ils vont se chicaner, puis que, justement, on arrive à la saison 5, puis là, veux pas, COVID aidant, vu que les trois clans familiaux sont répartis dans les États-Unis, c'est justifié qu'ils viennent pas se rencontrer ou en tout cas qu'ils se jasent en Zoom et tout ça. Fait que, veux pas, la série a réussi à bien s'adapter pour la saison 5, j'ai l'impression, puis pour la saison 6, on va juste, je l'espère, bien conclure cette série-là, parce que conclure une série et que la fin soit accepté de l'auditoire, c'est difficile de bien finir une série. Il y a beaucoup de séries qui se sont plantées avec leur finale de saison puis leur finale d'histoire complètement. Fait que, est-ce que This Is Us va réussir à rentrer dans le clan des fins
on
réussies?
On va savoir bientôt. Alex Baillargeon, une chronique télé de la nouveauté, d'autres raisonnables qui devraient apparaître à l'automne 2022 à Radio-Canada.
Et sur l'Extra.
Et sur Extra, bien entendu. Puis, il y a également des annulations, des fins. Le show de Ellen DeGeneres en fait partie. Et il y a également This Is Us qui va conclure après 6 saisons. Merci beaucoup d'avoir été de passage.
Ça fait plaisir.
Et c'est avec toi que je conclue l'émission d'aujourd'hui. J'espère que vous avez un beau mercredi de fin de journée, parce qu'en tout cas, moi, j'en ai eu un à vous animer cette émission-là et à inviter toutes ces personnes qui ont ponctué, coloré l'émission d'aujourd'hui, à commencer avec notre segment « Chérie, je suis poète ». On a reçu Christian Girard aujourd'hui, qui a fait paraître son recueil « Le temps qu'il fait » il n'y a pas si longtemps. Et un recueil qui, étrangement, a pris tout son sens encore plus parce qu'il a été retardé de la COVID. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez réécouter l'émission sur le site de chez.ca ou encore trouver son recueil « Le temps qu'il fait » dans toutes les bonnes librairies. Un grand merci également à Josiane Paradis qui, après quelques années d'absence, plus d'une dizaine, faut le dire, a sorti un nouvel extrait qui se nomme les coups des franges, et on parle de prendre son temps, prendre du recul, prendre soin de soi. C'est vraiment des thématiques qu'on explore de ce temps-ci avec la COVID. Alors, allez écouter ça sur son Bandcamp ou retrouvez-la sur les réseaux sociaux. C'est Josanne Paradis. Alex Bergeon nous a parlé des nouveautés et des cancellations télé. Il y a Alex Tremblay-Lamarche qui a élaboré la thématique de la famille en trois titres pour sa chronique littéraire. Vous allez retrouver ses suggestions sur le site de chiz.ca. Et moi, c'est comme ça que je finis l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. Dans quelques instants, vous allez être avec les architectes du son, 3600 secondes d'histoire et Funk Connection à 19h30. Nous, on se retrouve ce vendredi pour une autre émission de Chérie J'arrive. Et d'ici là, vous serez avec Félix Duchesne. Je vous souhaite un beau mercredi. Bonne fin de journée et à bientôt. Salut!
ne suis plus celui que j'ai tant été, que j'ai tant voulu être et m'efforçais de rester. Si la vie m'a changé comme j'ai changé d'avis, je suis allé trop loin pour rester sain d'esprit. J'ai perdu ma vie à chercher le trésor. Le cœur hissé haut à un ras de marée, j'ai foncé dans des murs qui n'ont jamais existé. Si le vent a tourné comme j'ai tourné la page, je suis parti longtemps sans quitter le rivage. J'ai perdu ma vie à chercher le trésor. J'ai perdu ma vie à chercher le trésor. Gravé au mât de ma mémoire, ce jour noir et pluvieux qui était le miroir de l'instant et du lieu de mes propres adieux, passé par-dessus bord dans de vagues aurores. J'ai perdu ma vie à chercher le trésor. J'ai perdu mon âme comme mon père. La vie m'a changé comme j'ai changé d'avis. Je suis allé trop loin pour revenir ici. J'ai perdu ma vie à chercher le trésor.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Vous ou un proche vivez avec une perte de vision? Peu importe où que vous soyez dans votre cheminement, la Fondation INCA est là pour vous. Que ce soit des formations en technologie adaptée, des groupes d'entraide, des activités éducatives pour les jeunes ou du soutien à l'emploi. Nos programmes gratuits permettent aux personnes touchées par la perte de vision de vivre la vie qu'elles ont choisie. Visitez inca.ca ou appelez-nous au 1-800-361-4965.